Hello, I'm Bill Gates.
And we are calling it iPhone.
Attends, je veux causer de science avec les intellos.
Salut à tous, je m'appelle Jérôme Colombo.
Salut à tous, je m'appelle François Sorel et je fais des pout-pout-pout sur le générique de chez Jérôme et François.
C'est pas très élégant ça, François.
Écoute, l'élégance, Jérôme, toujours. Pourquoi toujours l'élégance? De temps en temps, lâchons-nous.
Mais oui, soyons un peu vulgaires.
Écoute, nous
gras.
Sommes dans ta tour vitrée là, aujourd'hui. Il fait un temps magnifique, le soleil est là, le ciel est bleu et je suis en pleine forme. Et franchement, je suis tellement heureux, un, de te retrouver. Et
ouais.
Deux, de vous retrouver à vous dans chez Jérôme et François.
Vous voyez comme on est joyeux de vous retrouver.
Mais bien sûr.
En plus, on s'est absenté un peu longuement là, parce que
oui, c'est vrai.
Il n'y a pas eu de chez Jérôme et François en janvier.
Ouais, on a beaucoup dormi.
Parle pour toi.
non, parce qu'on a deux, trois trucs à faire avec Jérôme au quotidien.
et on n'a pas eu le temps.
Mais ça faisait un moment qu'on se disait... Quand même.
Il faut le faire.
Quand même.
Voilà, on est là, on se retrouve tous les mois, ce podcast pas comme les autres, où on vous parle de tech du haut de nos 150 ans à nous deux.
Et ah surtout... oui, c'est vrai que toi, tu en as 100 et moi 50.
Voilà, exactement.
C'est vrai que c'est ça. Ouais.
Et puis, surtout, on vous raconte un peu les à côté de notre vie de journaliste geek. Et cette semaine, dans cet épisode, François, on va parler... Tiens, si on parlait d'intelligence artificielle, ce serait original, non?
Ah bah écoute, oui. Serions-nous à l'aube d'une vraie révolution, mais majeure, on va en parler dans un instant.
Majeure.
Ouais.
Autre révolution qui se profile ou pas, c'est la VR. Alors on en est où des casques VR, etc. et tout,
hein,
on rêve beaucoup, est-ce qu'il va se passer des choses? Et puis comme d'habitude, allez, on vous trouvera deux, trois petits coups de cœur personnels, hein, ça vous va?
Ah oui, moi j'en ai un, tu vas voir, on va prendre de la hauteur avec mon coup de cœur.
Ouh, génial. Ouais. Bon, eh ben, écoutez, c'est parti, chez Jérôme et François.
Allez, go.
Let's go. Mixé en direct.
Ah oui, mixé en direct. Hein, ouais. D'ailleurs, mixé moyennement en direct, on peut le
là,
dire.
Là, j'ai oui, c'est un peu merdouillé. Bon, écoute, ouais, on fait ce qu'on
Jérôme
peut.
Guetta.
Ça voilà. Suffit.
Hein, c'est ça.
Ça suffit. Ne m'embête pas parce que sinon, je t'envoie des.
Jérôme Colombin a son nouveau joujou. Et là, croyez-moi, on n'est pas couché, les amis.
J'adore.
Ouais, oui, je sais.
Nous sommes des gosses. Bon, vous nous connaissez. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'on est à la fois sérieux.
Déjà, bon courage. Si vous nous suivez régulièrement.
Voilà, on n'est pas sérieux du tout. Et en même temps, quand même assez sérieux. Parce que voilà, on arrive à faire des trucs. Et on essaie de mixer tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a d'ailleurs la moitié du studio qui vient de s'écrouler derrière.
Ça, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est ça pas arrive grave. Tous les jours.
Non, Jérôme, pour débuter.
Oui.
Parce que, évidemment, on échange ensemble durant ce podcast,
ouais.
Et on se voit quasiment quotidiennement, à la fois pour ce que tu fais dans Tech & Co, etc., sur la chaîne et dans l'émission que je présente tous les soirs sur BFM Business.
Et oui.
Et on évoque tout le temps ChatGPT, l'intelligence artificielle, etc. Alors, on ne va pas vous refaire toute l'histoire de ChatGPT et de l'IA, mais il fallait quand même l'évoquer dans ce rendez-vous.
Attends. Là, moi, je pense qu'on peut le dire, et on l'a dit d'ailleurs, on l'a dit sur Tech & Co, je l'ai dit dans mon podcast cette semaine dans Monde Numérique. Je pense que c'est une semaine historique.
Ah oui, c'est
historique.
Vrai.
Et n'ayons pas peur des mots.
Non, c'est vrai.
C'est un vrai tournant.
Février 2023, le début d'une nouvelle ère.
Exactement. Il y a eu ChatGPT qui date du mois de novembre, novembre 2022, mais on continue à en parler parce que c'est une vraie révolution de fond. On n'en a pas encore compris tous les détails, d'ailleurs. Et puis surtout, cette semaine, oui, les annonces Google, les annonces Microsoft, les deux géants, en l'occurrence de la recherche sur Internet, parce que maintenant, c'est là où ça se déporte sur la recherche sur le web, et avec des annonces qui sont fracassantes, quoi.
Qui sont fracassantes et qui, sans doute, sont véritablement l'innovation de rupture. On en parle de temps en temps. C'est vrai que, avec Jérôme, parfois, on gueule un peu parce qu'on se dit... Ça ronronne.
Ça rien.
Un smartphone avec un nouveau capteur.
On s'ennuie.
C'est génial, etc. Et ça faisait un moment qu'on attendait cette innovation de rupture. Et plus le temps passe, plus je me dis que, il y aura
un avant
marqueur
et un après.
Fort en... fin 2022, début 2023, au niveau de l'arrivée d'Internet pour moi. C'est-à-dire que quand tu vois que Internet a complètement bouleversé notre quotidien, la société, les échanges, ça a rapproché les gens, ça a créé aussi évidemment des
problèmes,
bien sûr. Mais d'un côté, il y a un avant et après Internet, ça c'est évident. J'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle et surtout, parce que l'IA, on en parle depuis très longtemps, finalement, c'est pas nouveau l'IA.
On sait que ça existe, mais on n'y avait pas vraiment accès.
C'est ça, et puis on n'avait pas l'interface qui nous a permis de comprendre la puissance de ce truc-là. Ça me fait un peu penser à l'iPhone, en fait. Le premier iPhone n'a rien révolutionné, c'était un téléphone où on pouvait aller sur Internet et prendre des photos.
Oui, mais il réunissait ce qui se faisait de mieux à l'époque technologiquement et qui était en petits morceaux à droite et à gauche.
T'avais le N95 et d'un coup, t'es passé à l'iPhone qui a complètement bouleversé l'ergonomie, la manière d'accéder à la technologie. Et j'ai l'impression que ChatGPT, c'est un peu ça.
Mais c'est exactement
c'est
ça.
C'est une nouvelle manière que tout le monde peut utiliser et comprendre pour goûter en fait à l'intelligence artificielle.
Ouais, même si, alors c'est quand même très compliqué cette histoire-là, parce qu'il y a le côté magique de cet outil qui sait faire des phrases, qui a l'air de nous comprendre, qui a l'air de se faire comprendre, et en même temps qui est bourré d'âneries. Hein, ChatGPT est bourré d'âneries. Mais le fait que Google s'approprie un outil un peu similaire, que Microsoft s'approprie ChatGPT pour en faire un outil qui va permettre d'aller sur Internet, avec tous les problèmes qu'on a évoqués encore une fois dans les émissions, eh bien... C'est ça qui change tout, c'est notre accès à la connaissance, c'est vraiment notre relation avec la machine, et je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est une rupture incroyable. Ce qui est amusant, c'est que l'iPhone, c'était du hardware, et là, on est sur du software, de la donnée, etc. C'est encore plus abstrait quelque part.
Et tu as raison, tu dis que, évidemment, c'est pas parfait, ChatGPT, il y a des erreurs, enfin bon, on va pas vous refaire le coup de l'œuf de vache, enfin tous ces trucs-là, mais évidemment que ça fait des erreurs, on est à l'an zéro de cette technologie.
Ouais, bien sûr.
Et déjà, pour un bébé, il fait des trucs incroyables. Alors imaginez lorsqu'il aura 5 ans, 10 ans, quand ce sera un ado et un adulte. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Parce que cette intelligence artificielle, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elle se nourrit et corrige ses erreurs. C'est vraiment de la science-fiction. Moi, ça me fait penser à des films, si tu veux, où on voyait cette intelligence ambiante numérique qui progressait et qui... petit à petit s'améliorer en quelque
Alors,
sorte.
Alors c'est ultra flippant. On bascule dans ce qu'on annonce depuis un certain temps qui est le web sémantique, c'est-à-dire on n'est plus sur du question, je te pose une question avec des mots-clés, tu me réponds avec des liens, etc.
Oui.
Là, je suis dans la conversation. C'est ce qu'on appelait, ça avait été théorisé
ça va apporter, je pense, une proximité avec la machine qu'on n'avait pas aujourd'hui.
Oui, mais c'est ça qui est totalement flippant.
Ouais,
c'est vraiment là, flippant. Je ne sais pas si tu es comme moi et que tu as en tête les mises en garde de Stephen Hawking, d'Elon Musk même aussi. On ne sait pas le monde qui est devant nous avec ça. On ne sait pas exactement où on va. Ça va nous complètement perturber notre jugement, nous faire croire des choses, mais des fake news puissance 1000, enfin c'est du délire.
Ouais. Et d'un côté, ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas oublier que c'est un outil avant tout, ChatGPT. Alors moi, je vois toujours, tu sais, le verre un peu plein et pas forcément vide. Je me dis que ça va révolutionner des métiers entiers. Ça va faire de la casse. Mais comme Internet a fait de la casse,
On redistribue les cartes, c'est tout ça. C'est
pulvérisé tous les secteurs industriels. Enfin voilà, Internet a tout cassé et tout s'est reconstruit. Tout a été augmenté et je pense que de la même manière, l'IA, que ce soit ChatGPT ou l'offre de Google. Ou autre, hein, parce qu'on peut imaginer que Meta va sortir aussi du bois bientôt, parce qu'ils ont un vrai trésor en matière d'intelligence artificielle, ils vont débouler avec quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment embrasser cette technologie, ne pas en avoir peur, en tous les cas, essayer de la maîtriser, si tu veux, et se dire que c'est un outil qui va... nous faire gagner du temps.
Ouais, mais c'est un outil qui est pas neutre, François.
Ah non, c'est pas
parce
neutre.
Que voilà, ChatGPT, on sait pas qui l'entraîne, on sait pas avec quelles données il s'est entraîné. C'est ça aussi les problèmes qu'il y a derrière.
Mais peut-être que ça va rapprocher les humains finalement, ce truc-là, parce que au lieu de s'échanger des
comme Facebook par exemple.
Non, mais tu sais pas. Enfin,
Mais bien sûr, mais moi aussi, je veux voir les choses positivement comme toi.
Je me dis, la machine, c'est un outil, ça va nous permettre d'accélérer, de faire plein de choses passionnantes. Enfin, quand tu vois que on peut faire des dossiers de presse, des petits articles, enfin, de coder des trucs et tout grâce à ChatGPT, tu te dis, bon, ok, voilà, il y a des métiers qui vont souffrir de tout ça, mais ça va sans doute créer de nouvelles choses, de nouvelles ressources. Le problème, c'est qu'on sait pas. On sait pas trop où on va. Mais soyons optimistes, voilà.
Soyons optimistes. Nous sommes optimistes de toute manière, on l'a toujours été.
Bien sûr.
On est ravis et c'est vrai qu'on est très emballés parce qu'on a vraiment la sensation de vivre une nouvelle étape.
Gardons ce podcast et voilà, ressortons-le dans 10 ans, 20 ans pour voir peut-être qu'on se plantera, mais lamentablement, hein, mais peut-être pas.
Eh bien, nous verrons.
Peut-être que dans quelques années, il y aura un chez Jérôme et François avec un Jérôme Colombin ChatGPT, un François Sorel ChatGPT. On programmera, tu sais, on se mettra là comme ça devant notre ordi. Bon, tu le fais dire ça avec les intonations de François, là, sa manière de voir.
Tu sais que moi, j'en rêve depuis des années de ça.
Ah, moi non, quand même. Mais alors, avec qui on parlerait ?
Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je me vois bien, tu sais, comme un artiste. Mais je crois que je l'avais déjà dit, non ? Genre oui, Michel-Ange, tu vois, qui fait travailler les petites IA, là, ouais, comme ça. Ouais. Et puis, toi, tu donnes l'impulsion au début, simplement. C'est toi qui donnes l'idée de départ, ouais, le sujet ou je sais pas quoi. Et puis, tu passes à la fin, tu changes deux virgules, un mot, une accroche, et puis tu signes à la fin et terminé.
Mon Dieu.
Mais oui, je serais le
oui, mais oui,
comme un grand couturier.
Le Christian Dior de l'IA.
Le Christian Dior de l'IA.
Oui, allons-y.
J'aimerais beaucoup.
Bon, enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas pour tout de suite. Hein, on est encore là en chair et en os et on va essayer de le faire le plus longtemps possible.
Ouais.
L'autre sujet qu'on voulait évoquer, qui est un petit peu plus, on va dire, j'allais dire fun, pas fun, parce que la VR, ça pose plein de questions aussi, etc. Mais en tout cas, voilà, là aussi, il y a plein de questions qu'on peut se poser là-dessus. Parce que la VR, Jérôme, d'un côté, t'as Meta qui, est en train d'exploser en vol avec les dizaines de milliards
pas gentil.
De Zuckerberg. Non, 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 mais je dis ça, mais j'espère quand même qu'on arrivera à quelque chose. Mais,
j'espère en espère pour lui.
Alors, d'un côté, Meta.
Non, mais la VR, tu l'as vu, elle t'a appelé récemment?
Oui, la VR m'a appelé. Mais tu sais que souvent, je sors mon masque Quest Pro, le Quest 2.
Quand tu vas à la piscine?
Non, pas du tout. Et je joue. Et je joue, j'adore. Franchement, c'est top. Et encore une fois, souvent, je...
Profite bien parce qu'il va plus être mis à jour. Hein.
Non, mais non.
Le Pro 2.
Non, pas le nouveau, celui qu'on a, là,
oui,
le blanc.
Le Quest 2, là. Mais oui, mais je crois, si, ils vont l'abandonner. Ou je sais plus, il sera plus compatible avec je sais plus quoi, là.
Oui, mais bon, pour l'instant, ça marche bien, en tout cas. Ouais. Et j'adore Beat Saber, j'adore le ping-pong, j'adore... Il y a plein de trucs et tout. Et franchement,
oui, c'est chouette.
Je m'éclate, vraiment. Mm-hmm. J'ai essayé le Meta Quest Pro,
oui.
Donc tu sais, le noir, là,
oui.
Qui se veut être on va dire, la crème des crèmes de la technologie. Franchement, ça vaut pas ces 1 800 €.
C'est dingue. Hein.
D'ailleurs, t'as vu que Meta s'est dit, comme j'en vends pas, je vais baisser un peu le prix. Alors, il est toujours à 1 400, je crois.
Ouais.
Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai que.
Et moi, je l'analyse pas comme ça. Je pense qu'ils avaient prévu de le baisser, mais simplement, ils pouvaient pas le baisser d'entrée de jeu parce qu'il fallait, pas dévaloriser le truc. Enfin, bref. Donc, vas-y.
Ouais, voilà. Et donc, je l'ai testé. En termes de qualité d'image, c'est un peu mieux parce que tu sens que la définition des écrans que tu as sur les yeux est de meilleure qualité. Mmh. Il y a
les pancake lens.
Tu as un angle de vision un petit peu plus élevé. Il est plus léger.
Ouais.
Si tu veux, c'est pas encore une fois la grosse claque, mais tu te dis, il est plus léger, il est un peu meilleur. Tu as un meilleur angle de vision. Les manettes, tu sais, les prolongements de la VR, là, les petites manettes sont très sympas aussi.
Les caméras pass-through en couleur.
Ça c'est pas mal. Et tu te dis, ok, bon, très bien. Meta, on va voir. Tu sais qu'ils vont sortir un nouveau Quest là cette année. Hein.
Ouais.
En fait, le successeur
du Pro 2.
Du 2. On va voir ce que ça donne. Il devrait arriver.
Oui, un Quest plus grand public alors.
Oui, un Quest plus grand public.
Ce sera pas un Pro.
Voilà, qui devrait coûter 300 ou 400 euros.
D'accord.
Ça va être intéressant de voir quelle stratégie prend Meta. Est-ce qu'ils vont rajouter de l'AR, etc. Et puis derrière tout ça, il y a tous les projets dont on nous bassine depuis des mois.
Mmh.
Apple.
Bah oui. Mais c'est ça aussi dont on voulait parler. Ça en est où, cette histoire-là? Puisqu'on a commencé l'année en disant, cette année, ça va être l'année de la VR chez Apple. Ils vont dévoiler leur casque au printemps. Il n'y aura pas d'autres grosses annonces, etc. On est un peu suspendu quand même aux annonces d'Apple.
On est un peu suspendu aux annonces d'Apple.
Ils doivent se mettre une pression parce qu'ils savent que tout le monde les attend au tournant. Donc, il faut que ce soit un produit à la fois innovant, qui soit un succès commercial, qui fasse avancer le bouchon, qui soit pas décevant.
Et puis surtout, quelle stratégie? On parle beaucoup d'AR. Ça veut dire qu'il y aurait que de l'AR sur donc de la réalité augmentée sur ce masque d'Apple. Est-ce qu'on aurait de la VR aussi? Quel soft? Est-ce qu'on peut imaginer un iOS en VR?
Des vraies applis, pas juste
des applis.
Des mots technologiques, quoi, parce que ça, tout le monde s'en fiche.
Voilà, qualité d'image. J'ai cru comprendre que, en fait, il y a des trucs qui ont un peu fuité. Ce masque, en fait, serait raccordé à un câble. Et une batterie que tu accrocherais à ta
directement
ceinture.
Directement dans ta moelle épinière.
Mon Dieu. Non, t'aurais, tu sais, comme une espèce de power bank. Accroché.
Ah ouais, donc ils vont déporter l'électronique pour qu'il soit moins lourd et qu'il y ait...
Alors, pas l'électronique, l'énergie.
Ah, la batterie.
L'énergie.
Okay, d'accord.
Voilà, tu aurais donc l'énergie avec une batterie un peu design Apple que tu accrocherais en fait à ta ceinture et tu aurais un câble qui remonterait en fait jusqu'au masque.
Ce serait une manière de donner un peu d'autonomie parce que par exemple le Quest 2 dont tu parlais, tu l'utilises sur batterie puis quand il est vide, tu le branches, tu peux encore l'utiliser mais
tu
as un fil.
Tu peux encore l'utiliser, tu as encore un fil,
c'est pas encore un fil. Donc là
tu aurais
c'est
pas super pratique hein, voilà. Vraiment et puis l'autonomie du Quest elle est pas terrible hein.
Ouais.
Surtout si tu t'amuses à partager l'écran de ce que tu vois sur ta télé.
Bah oui.
Alors là, bonjour, hein. C'est tu joues même pas une heure, je pense. Mais donc là, on va voir ce que c'est, on va voir ce que ça donne, ce produit-là, qui visiblement va coûter très cher, hein, plusieurs milliers d'euros. Ce serait voilà, un ballon d'essai pour Apple qui aussi déploierait une technologie sur le long cours pour voir comment les développeurs s'accapareraient tout ça, tu vois, donc c'est intéressant. Et puis la dernière news, qui aussi est plutôt réjouissante, c'est que Samsung aurait passé un accord avec Google et Qualcomm pour sortir son offre de VR aussi.
Bah oui, c'est difficile qu'ils restent à côté de ça.
Mais non, et d'ailleurs...
Ils sont un peu précurseurs, ils avaient déjà un casque avec, avec le smartphone, etc.
Mais oui, ça a été les premiers finalement à lancer
un truc. Parmi les premiers, Samsung.
Voilà, ouais, ça a été un bide monstrueux, ils ont dépensé énormément d'argent avec ces trucs-là. Rappelle-toi, à chaque fois qu'on allait au MWC ou dans des confs, ils nous filaient des casques pour tester, etc.
Mais enfin, ils ont essayé de faire même des espèces de parcs d'attractions éphémères, etc.
Donc, avec, ils avaient pensé à ça depuis longtemps.
C'est-à-dire, c'est amusant, mais ce n'est pas la killer app que tu as envie d'avoir chez toi parce que tu ne peux pas t'en passer. Quoi.
Et puis, la technologie, ça remonte à quelques années. Hein, on n'était pas prête.
Mais oui.
Peut-être que là, Qualcomm, puissance, tu vois, de calcul, etc.
Alors,
Samsung est très bon dans les écrans. Donc, tu sais qu'ils font de vraiment d'excellents écrans OLED. On peut imaginer qu'ils aient développé une technologie aussi révolutionnaire.
Mais je crois qu'il y a des choses. Alors en matière
Google le soft.
Oui, c'est sûr. En matière de VR, je me demande s'il n'y a pas quand même des barrières qui vont être hyper difficiles à dépasser. Alors moi, je dois interviewer la semaine prochaine dans mon podcast Monde Numérique. Voilà, Tim Cook. Non, quelqu'un qui s'y connaît vraiment.
Bonjour, Jérôme Colombin. Merci de m'appeler.
Non, je te le laisse, Tim Cook.
Je pense que j'aurai Christophe Cook, moi, un jour.
Laisse-moi finir.
Pardon.
C'est pas possible. Donc, un monsieur qui est professeur de VR et qui a été le premier professeur de VR à l'université en France, qui s'appelle Philippe Fuchs, et qui est un spécialiste de ces trucs-là, et qui rigole devant les trucs de Meta, en disant que, de toute manière, on ne pourra jamais avoir la qualité d'image et la qualité immersive à laquelle on aspire et que nous promet Meta, etc. Pas seulement pour des questions d'appareils pas assez puissants, mais pour des questions de configuration de nos yeux et de notre système nerveux, en réalité. Alors, je te passe les détails, j'ai pas encore fait l'interview complète, mais rendez-vous la semaine prochaine dans Monde Numérique pour en savoir plus. Non, c'est assez intéressant.
Non, mais bien sûr, c'est déjà cette personne doit être très intéressante. Ce que tu fais, toujours très intéressant. Mais moi, je me méfie quand même de cette pensée un peu franco-française de dire « ça marchera jamais, on n'y arrive pas ». Je me souviens d'un truc quand Elon Musk avait dit je vais faire une fusée qui va réatterrir toute seule. Moi, je me souviens, tu avais tous les ingénieurs de Ariane Espace, etc., qui disaient, attendez, nous, on est des pros, les gars. Hein. Nous, on fait ça depuis 30 ans. Ça n'arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Alors, il en a pété quelques-unes des fusées, Elon Musk. Hein. On s'en souvient. Mais maintenant, il fait ça, mais comme qu'il rigole. Tu vois, donc, moi, je me méfie de cette pensée unique.
Non, mais quand,
un peu
c'est
en disant
réducteur.
On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Il y a plein de trucs qu'on disait il y a 20 ans qu'on n'y arrive pas et aujourd'hui on le fait, tu vois ce que je veux dire. Donc,
mais là on touche à l'humain et à la structure mentale et neuronale des humains. Mais on verra, ouais, bien sûr, faut pas sous-estimer, tu as raison. Voilà, bon, bah, pour la VR en tout cas, on va continuer.
Eh ben, continuons.
On continue avec nos petits quoi, coups de cœur du mois.
Bah écoute, oui, coup de cœur. Alors bon,
allez, bah, enfin, coup de, je sais pas quoi, de.
Ce qui nous a un peu marqué, on va dire bouleversé ces derniers jours.
Ce qui nous a tout simplement bouleversifié. Bon alors toi, c'est une histoire d'avion, je sais.
Moi, c'est une histoire d'avion.
Ouais.
Parce que tu sais que dans Tech & Co tous les soirs.
Mais tu n'y connais rien en aviation.
Non.
Rassure-moi.
Non, je pilote rarement. Je sais que t'es meilleur que moi.
Non, non, pas
que
du
je
tout.
Me souviens. Non, mais je me souviens qu'avant, t'étais. T'as eu ta période.
J'ai eu ma période flight simulator.
Quand même.
Ouais, mais
tu t'en souviens de ça?
Oui, mais c'est une grosse frustration. Tous mes avions se posaient en travers de la piste.
Non, mais tout. Mais tu. Enfin, tous tes avions se posaient de manière catastrophique.
Non, mais en travers. Je n'ai toujours pas compris comment les pilotes pouvaient se mettre dans l'axe d'une piste.
Je disais, oh là là, j'ai encore raté avec mon A380 l'atterrissage. Je me disais, pétard. Heureusement que c'est virtuel tout ça.
Oui, en
hein,
plus, l'atterrissage à Ajaccio, la piste est courte.
Oui, c'est pas facile.
Il y a des montagnes.
Tu terminais dans le golf.
Bref. Non, mais c'est, alors, juste parenthèse, c'est vrai que, est-ce que tu as remarqué que tous les gens qui s'intéressent à la tech, comme nous, comme toi et moi, s'intéressent aussi à l'aviation et vice versa.
Mais bien sûr.
Les pilotes, etc., sont aussi des geeks.
Évidemment.
Donc, c'est très marrant. Alors que moi, j'avoue que je ne connais rien à l'aviation, mais ça me fascine tout comme toi.
Ouais. Et voilà. Et
surtout pour draguer les filles. Je trouve que c'est le plus beau métier pour draguer les filles. Pilote d'avion.
Ah bah oui.
C'est le métier le plus kiffant du monde, quand même.
C'est sûr, il y a l'uniforme.
Tout. Ouais. Pilote d'avion, quoi. Il pilote une machine de je sais pas combien de centaines de tonnes. Enfin bon.
Alors tu viens faire un tour dans mon avion.
mon cockpit.
C'est vrai que c'est pas mal.
C'est magique.
Alors, et moi, je voulais te parler du projet Dragonfly.
Ouais.
Parce qu'il se trouve que en janvier, alors je vais te donner même la date, c'était le 24 janvier. J'ai reçu sur le plateau de Tech & Co, alors Isabelle Lacaze,
ouais.
Qui est à la tête en fait d'un département technologique chez Airbus.
Chez Airbus.
Et avec elle était un garçon que j'aime beaucoup, un journaliste de BFM Business qui s'appelle Jean-Baptiste Huette et qui s'occupe à BFM Business de tout ce qui est aéronautique, spatial, etc. Il est passionnant, il est et passionné. Et donc il était avec nous et ce projet s'appelle Dragonfly. Libellule.
Ouais. Il n'a pas été présenté au CES de Las Vegas.
Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Ce projet est tout bonnement incroyable. Tu sais que l'aéronautique, en fait, est le théâtre d'innovations technologiques qui arrivent après dans le grand public. C'est un peu comme l'espace et le militaire, en fait.
Ouais,
ils testent plein de choses incroyables et ça arrive après un jour en application grand public.
Sur ton avion personnel, tu veux dire.
Sur ton avion personnel. Voilà. Non, mais il y a plein de choses. Tu vois, le GPS, on le sait, a été conçu pour les militaires et puis des années après, c'est arrivé pour le grand public. Et donc, le projet Dragonfly qui est développé par Airbus, qui pour l'instant, au stade embryonnaire, imagine un avion piloté évidemment toujours par un pilote, un commandant de bord, mais secondé par l'IA. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que aujourd'hui, tu sais que le transport aérien est l'un des plus sûrs au monde, le plus sûr au monde. Hein,
statistiquement,
quand tu vois le nombre
ouais,
de milliers d'avions qui décollent tous les jours et le peu de problèmes qu'on rencontre.
Il
en
suffit
fait, finalement,
de télécharger Flight Radar.
Et tu te rends compte, tu te dis, mais c'est incroyable. Et là, pour améliorer encore, si tu veux, ces statistiques, ils imaginent une IA qui, au cas où il y aurait un problème, par exemple un malaise du commandant de bord.
Enfin, statistiquement, c'est rare, ça.
Un attentat terroriste. Oui, mais statistiquement, ben, c'est toujours encore, tu vois.
Ouais. C'est au cas où il n'y aurait plus qu'une seule personne à bord, alors. Ou plus qu'un seul pilote.
Ou au cas où il n'y aurait plus personne à bord.
Ouf.
C'est ça qui est incroyable. C'est que cette intelligence artificielle serait latente, si tu veux, dans l'avion. Et si, un jour, pour une raison ou pour une autre, pour une raison, tu vois, d'attentat terroriste ou pour je ne sais quoi d'autre, il n'y a plus de pilote dans l'avion, en quelque sorte, eh bien, l'IA détecterait qu'il y a un souci par des micros, par des si tu veux des capteurs dans le cockpit, OK? Et prendrait la main sur l'avion et piloterait l'avion pour aller jusqu'à l'atterrissage. Tu te rends compte un peu, c'est quand même incroyable.
Et t'imagines il y a un flot de questions qui viennent quand on pense à
évidemment, ça, évidemment. Et je vous invite en tout cas si c'est un sujet qui vous intéresse à réécouter le replay de cette émission. Donc c'était le 24 janvier dans Tech & Co sur BFM Business. Et si tu veux. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que, il faut que tout soit autonome. Cette intelligence artificielle n'est pas connectée, en fait, à un réseau.
D'accord.
Toute l'intelligence est dans l'avion pour éviter les cyberattaques, etc., etc. Parce que ça, il faudrait pas que, en fait, le remède soit impacté par un mal extérieur, si tu veux. Donc, tu as toute cette intelligence artificielle qui pourrait détecter une anomalie dans le cockpit.
Ouais.
Et à ce moment-là, si tu veux, le pilotage automatique serait poussé jusqu'à l'atterrissage de l'avion, enverrait un message vocal
se ferait passer pour le pilote.
L'IA. Non, pas, non, mais dire ouais, par mais exemple, là, ça... voilà, ça, l'intelligence artificielle de, du Boeing A350, parce que pour l'instant, ça ne marche que sur des Boeing A350 qui ont été modifiés avec des capteurs et des sondes d'accord. qu'il n'y a pas sur les
Airbus. L'intérêt, c'est quoi, pardon ? C'est la sécurité, donc ? Mais si, si tu as deux pilotes déjà dans l'avion, comme c'est le cas aujourd'hui, bon, statistiquement, le risque que les deux fassent un malaise en même temps, ils ne mangent même pas le même repas.
Non, mais n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de pilotes. D'accord, peut-être que demain on arrivera à un seul pilote dans l'avion. OK? Ouais. Donc là, ça prend quand même un peu de sens.
Ouais, ouais,
ça prend quand même un peu de sens. Et puis demain, il y a un problème, je veux dire, terroriste, un problème de malaise, etc., du pilote. L'avion pourrait automatiquement sélectionner un nouveau parcours, si tu veux, un nouveau plan de vol, choisir l'aéroport le plus proche, d'accord. indiquer à la tour de contrôle grâce à une IA. Et par une voix que c'est l'intelligence artificielle qui a pris le relais
ouais,
de cet avion.
Dis, Alexa, trouve-moi un autre chemin, quoi.
Oui, c'est un peu ça. Sauf que là, Alexa est connectée au réseau.
Ouais, là, tout se pas
fait.
Le cas.
Tout se fait, si tu veux, à l'intérieur et l'avion tout seul pourrait décider de prendre telle direction.
Ouais, mais si t'as une IA à bord qui est autonome, ça peut être hacké par définition.
Bah écoute,
c'est super intéressant, mais je pense qu'il faut être prudent sur ce sujet-là.
Non,
parce
mais bien
que
sûr.
Ni toi ni moi, on s'y connaît en aéronautique. Si vous,
non, j'ai reçu quelqu'un qui s'y connaît.
Oui, absolument.
C'est la patronne du projet, tu vois. Non, mais c'est pas.
C'est ah bon
non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, si Airbus travaille là-dessus, c'est que c'est pas un truc complètement d'un ingénieur fou dans son laboratoire, tu vois, avec les cheveux en pétard.
Je dis pas que c'est bidon, mais il y a plein de questions que je voudrais te poser et auxquelles tu pourras pas répondre.
Non, c'est clair. Voilà. C'est pour te dire que, un, je vous invite à réécouter le replay de ce truc-là, et deux, de se dire que...
On va l'écouter, on va le mettre tout de suite.
Non, mais l'intelligence artificielle va très très loin, c'est-à-dire que demain, elle pourrait remplacer un pilote de ligne pour faire atterrir un avion.
Ouais.
Voilà, juste bon, ça.
Voilà. Je sais qu'il y a des pilotes d'ailleurs qui nous écoutent, on les salue.
Eh bien écoutez, ça s'appelle le projet Dragonfly Airbus, et c'est testé sur des Airbus A350.
Bon, moi je te dis mon...
C'est un avion incroyable hein, d'ailleurs.
C'est vrai ?
Ah ouais.
Tu as déjà pris ?
Ben, je l'ai pris pour faire un Paris-Miami.
Ouais, mais toi, t'es toujours dans les bons plans. Moi, je vole
non,
sur
mais un bon plan. Non, mais c'était un vol. Je savais même pas que c'était un A350. J'ai pris ça et je suis rentré dans un A350.
Même quand je m'offre une place en premium, je me retrouve en écho près des chiottes.
Oui, non, mais ça, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. T'avais pas qu'à avoir d'aussi grandes jambes.
Bon, écoute, moi, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Parmi les nombreuses interviews comme toi que j'ai pu faire dernièrement, il y a une société française qui m'a bien plu parce que c'est du savoir-faire français hautement technologique, totalement inconnu. Et donc, j'adore ça. C'est une société qui s'appelle LinkSense que j'ai reçue et qui fabrique un truc. Alors, c'est pointu. Ce sont eux qui font les micro-connecteurs sur les cartes bancaires. C'est-à-dire les petits trucs dorés, les petites pattes dorées que tu vois sur ta carte bancaire.
De la puce ?
On dit c'est la puce, c'est pas la puce. La puce, elle est à l'intérieur, on la voit pas. En revanche, les petits connecteurs dorés, c'est ça qu'on voit, ouais. C'est ce qui fait le contact. Et ça, eh bien, c'est une société française qui est leader mondial dans ce domaine, qui s'appelle LinkSense, qui est en région parisienne. Tout est fabriqué ici, pensé ici, conçu ici. Et donc, ils sont leaders sur ce marché. Et ils vont vers de nouveaux développements aujourd'hui. Ils vont vers des micro-connecteurs dans des médicaments, ou tout au moins dans des pansements. Et donc, on aura peut-être demain des pansements intelligents qu'on mettra sur la peau et qui feront la même chose que notre montre qui suit nos battements cardiaques, qui mesure le taux de sucre, etc. Ben là, ce sera des espèces de stickers, simplement, et qui pourront, de manière non-invasive, contrôler tout un tas de choses sur l'épiderme. Donc, ils ont un vrai savoir-faire, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, je le dis parce qu'ils recrutent. Donc, si vous êtes, si c'est un secteur qui vous intéresse,
d'accord.
N'hésitez pas à vous renseigner sur LinkSense, qui a de grandes ambitions.
Mais voilà. On avait rencontré, je ne sais pas si
c'est de la pub gratuite. Non, mais j'ai bien aimé. Si tu avais
interviewé une boîte qui est hébergée au CEA, qui fabrique des micro-batteries.
Oui, absolument, tout à fait. Oui, comment il s'appelle
Et je pense que ça peut avoir du sens de coupler ces deux technologies.
Ben on va les mettre en contact. Hein.
Non, mais attends.
Mais bien sûr.
Pourquoi pas.
Mais je pense qu'ils se parlent déjà.
Oui, ils se connaissent déjà.
Tout à fait. Non, c'est super intéressant ce coup des micro-batteries. C'est une mine, le CEA. Il y a plein de trucs.
Mais
il y a des trucs en France.
Tu sais
que
je prépare un Tech & Co à Grenoble là-bas. Je vais descendre, je vais faire mon émission.
Mais ça fait des mois que je te dis, va à Grenoble. J'y suis allé avant toi.
Grenoble, entre les grèves, etc., pour y aller.
Pas facile.
Non, tu sais, moi j'y vais avec mon camion.
Voilà,
hein.
C'est pas ça. C'est que toi tu te déplaces avec ta caravane. Donc,
c'est ça.
Avec tous tes techniciens,
oui, c'est
toutes
ça.
Tes caméras,
mes maquilleuses,
tes maquilleuses, tes coiffeurs surtout.
C'est ça. Ils ont beaucoup de travail.
Les dealers. Non, enfin.
Jérôme Colombin.
Pardon, vous n'êtes pas Cyril Hanouna ?
Mais qu'est-ce qui vous arrive, franchement ?
Bon, non, mais c'est... Va à Grenoble, c'est super. Il y a plein de trucs vachement intéressants.
Eh bien, écoute, voilà, je vais aller à Grenoble.
Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on est presque à la fin. On est même quasiment arrivé à la fin.
Ah ben, on est arrivé à la fin de ce Chez Jérôme et François.
On est tellement triste de vous quitter.
Oui, mais on est tellement content aussi de vous avoir retrouvé. Et on sera là le mois prochain, bien évidemment. Vous savez que tous les mois, Chez Jérôme et François, on discute, on papote ensemble. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages.
Ouais.
Et un coucou à vous qui nous écoutez. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux.
Alors, on se fait un petit peu notre pub pour finir. Donc, toi, on te retrouve où et quand, François ? Rappelle-le nous, c'est tellement bon à entendre.
Que t'es con. De quoi je me mail le week-end sur BFM Business et en podcast, voilà.
Ce podcast immortel.
Immortel.
Le nombre de gens qui disent « Ah, j'écoute De quoi je me mail. »
Le Highlander du podcast.
Ouais, c'est dingue.
C'est ça. Tech & Co le soir du lundi au jeudi en direct. 2 heures de tech. Franchement, c'est passionnant de découvrir tous ces trucs.
Non, puis il est devenu bon là maintenant. Vous pouvez écouter, il maîtrise. Il se frise un peu.
Au bout de 72 ans.
72 ans, non, c'est cool.
Et puis toi, donc, ouais. Monde Numérique.
Moi, le podcast Monde Numérique, tous les samedis, l'hebdo. Un nouveau rendez-vous que j'ai lancé, mensuel, qui s'appelle Objectif 2050, les innovations technologiques au service de l'environnement, pour nous aider à mieux vivre et surtout à ne pas nous retrouver dans une fournaise en 2050. Et puis j'ai même lancé une web radio.
Oui, alors ça, écoute, c'est formidable quand même.
Voilà.
Jérôme Colombin, 24 heures sur 24.
24, il n'y a pas que moi, non, c'est surtout toi, les c'est invités. Surtout, voilà. C'est surtout une rediffusion de toutes les interviews. Ouais. Vous allez sur radiomondenumérique.com, oubliez, radiomondenumérique.info, et puis, ou bien sur les applis Radio King, Radio Line, et désormais, depuis peu, sur Deezer. La radio Monde Numérique est sur Deezer.
Eh bien, dis-moi.
Direct.
Formidable.
Je peux l'écouter dans la
Jérôme
voiture.
Jérôme Colombin lance sa radio, les amis.
Yes, je vous y attends. Bon, on vous retrouve donc, on espère, le mois prochain dans un nouveau numéro de Chez Jérôme et François.
Bien sûr.
Et d'ici là, sur tout ce qu'on vient de vous annoncer à l'instant.
Voilà, on vous embrasse et à très très vite.
Merci pour votre fidélité. Salut à tous.